Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Deuxième de notre Radio Barque pour la sixième saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Jérémy Ribouel.
Bonjour.
Vous êtes président du club de volley, le Narbonne Volley, c'est comme ça qu'il s'appelle.
C'est comme ça.
Les clubs, le club Les Centurions également.
Tout à fait, c'est le nom de l'équipe première. Ouais.
Voilà. Et nous allons parler avec vous, bien sûr, de volley, de sport, mais aussi de la façon dont vous allez, si je puis dire, prendre possession, entre guillemets, du futur aréna de Narbonne, parce que ça va probablement changer un certain nombre de choses dans votre existence.
C'est un tournant pour le club, c'est une marche à gravir, une marche très très haute, mais on s'y prépare depuis longtemps.
Voilà, donc on reviendra là-dessus dans une troisième partie, mais bien entendu, selon notre habitude, nous avons un sommaire. Alors Michel, cette semaine, tu as écrit dans ton blog des billets sur, notamment, je cite, « Faux procès et questions après la tuerie de la préfecture de police de Paris ». Ça sera notre première partie. Nous parlerons ensuite d'un papier que tu intitules « De sombre dimanche matin au sortir des Halles de Narbonne ».
Ah,
c'est plus la préfecture de police de Paris, c'est chez nous. Et puis on revient chez nous, en Occitanie notamment, avec l'ordre des architectes qui apparemment aurait pris quelques libertés et l'autorité de la concurrence n'a pas du tout apprécié et rappelle cet ordre à l'ordre.
Si l'on peut dire.
Si l'on peut dire.
Avec une belle facture à régler.
Voilà. Alors tout d'abord, donc évidemment, la fameuse tuerie de la préfecture de police qui a laissé pantois combien de personnes.
Oui. Oui, Jean-Claude. Cela dit, moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette séquence dramatique, c'est encore une fois l'attitude, le comportement de ce qu'on appelle les médias de masse et les commentaires qui en ont résulté sur les réseaux sociaux. Car à lire effectivement ces masses médias, en fait, hein, pour utiliser un terme générique qui englobe les deux, les médias et les réseaux sociaux, si l'on en croit effectivement ce qui a été dit dans l'instant même de cet dramatique événement, il eût fallu que M. Castaner déclara qu'il s'agissait comme ça, tout de go, sans avoir d'éléments probants sous la main, d'un attentat terroriste perpétré par un islamiste infiltré au sein d'une direction de son département ministériel. Il lui fallait qu'il dise ça, alors qu'il n'avait, lui, sur le moment, comme l'a reconnu ensuite en fait, la presse dite objective, un peu sérieuse, il n'avait aucun élément de fait qui lui permettait de dire cela. Les seuls éléments qu'il avait entre les mains et que ses directions, ses services lui ont fournis. Bon, j'en parle un peu en connaissance de cause, et ayant travaillé dans un ministère et ayant fréquenté un cabinet ministériel, je connais un peu, enfin,
mais
je peux prétendre savoir comment ça marche.
Voilà, c'est
donc
ce qu'on lui dit et ce qu'on lui fait lire.
Donc voilà, il demande, fait très rapidement le dossier personnel de l'individu en question, et puis il donne les éléments contenus dans ce dossier personnel, pas moins. Et immédiatement, immédiatement après ces propos, un déchaînement en fait médiatique sur la personne en question, parce qu'effectivement, tout le monde, dans la presse et sur les réseaux sociaux, était persuadé, sans avoir d'éléments encore une fois de fait précis, que c'était forcément un attentat islamiste.
Alors ça s'avère être sérieusement le cas.
C'était le
cas. Mais avec le recul.
C'est avec le recul. 24 heures après, et avec les éléments fournis par les différents services du ministère de l'Intérieur, mais aussi par d'autres sources d'informations comme certaines presses, le même ministre déclarait qu'effectivement, cet individu en fait, était un individu qui aurait dû être signalé parce que des éléments de fait montraient qu'effectivement il avait été infecté par la peste islamiste et que de ce point de vue-là, il constituait une menace interne qu'il eût fallu d'abord identifier et écarter de toute possibilité de passer à l'acte.
Normalement, il devait être exclu aussi de ce service.
Exactement, donc il aurait dû être déradicalisé. Alors, comme entendu bien, c'est que je ne veux pas non plus écarter ce qui aujourd'hui pose un problème dans notre société de manière générale et qui fait que, au motif de la théorie du pas d'amalgame, l'on prenne des précautions multiples et variées et souvent stupide, hein, pour écarter, en fait, très très vite, la piste d'un attentat islamiste au motif que cela pourrait porter ombrage et mettre en difficulté une certaine communauté, effectivement, et notamment l'ensemble des musulmans qui vivent pacifiquement dans notre pays. Comme si, effectivement, comme si on pouvait ne pas être déséquilibré, c'est le terme qui est souvent employé dans cette presse, hein, déséquilibré ou être dans un état dépressif, et en même temps, hein, être soumis, en fait, à une idéologie islamiste, en l'espèce, hein, et écarter des éléments de fait, le mode opératoire, la cible, en fait, et puis les pratiques, en fait, religieuses de la personne, comme, d'un déséquilibré. Un déséquilibré peut être parfaitement islamisé de ce point de vue-là, et par des idéologies du type Daesh, et en même temps, tout en étant déséquilibré, choisir de manière sciemment calculer une cible, à savoir, en fait, les forces de police, donc les forces républicaines, régaliennes, et puis un mode opératoire qui est celui souhaité, demandé, exigé par Daesh, parce que plus difficile à identifier, à savoir, le couteau, en fait, et puis l'assassinat par le couteau.
Oui, donc, le plan stratégique et tactique, savamment préparé, quand même.
Exactement. Donc, sans sous-estimer cela, quand même, quoi. On ne pouvait pas faire ce procès-là, enfin, ce ministre d'ailleurs, dans les conditions, encore une fois,
dire qu'il semble, monsieur Castaner, est une cible facile et
réitérée. Évidemment. Alors, le plus drôle dans cette affaire-là, c'est que les mêmes qui font le procès, en fait, à la France d'en haut, hein, de masquer, en fait, un certain nombre de réalité objective et en même temps d'être laxiste envers un certain nombre de personnalités et de mouvements, disons, islamisme général, appartiennent à la France d'en haut, en fait, mais forcément, cette France d'en haut-là, qui travaille dans les différents partis politiques, dans les films, dans les mouvements, opposés.
Tu as dit le mot, dans les partis politiques.
Mais bien sûr.
Donc, on revient à de la politica.
Politicienne, c'est ça. Jean-Claude, ouvrons une parenthèse. Je reprends les termes de monsieur Trévidic, qui est le juge antiterroriste qui a pris la parole récemment sur le sujet. Qui peut prétendre aujourd'hui, hein, dans les conditions où cet attentat, en fait, a été fait, que, en poste au ministre de l'Intérieur, il aurait pu, en fait, déceler, en fait, sans que ces éléments arrivent, en fait, dans les conditions que l'on connaît, qu'un individu était en train de passer à l'acte pour tuer 4 personnes? Franchement. En posant la question, on a la réponse. Personne ne pouvait raisonnablement penser cela.
Sauf que, selon ce qu'on sait maintenant, ce monsieur avait donné des signes inquiétants depuis fort longtemps.
Mais les signes inquiétants en question, Jean-Claude, en fait, le problème, c'est que, effectivement, dans son propre bureau, il avait manifesté, en fait, un comportement, anti-Charlie au moment où l'événement.
Par exemple.
Le problème, c'est que les personnes en question de son propre service n'ont signalé à personne d'autre qu'eux-mêmes, effectivement, ce genre de propos. Oui. Donc, comment peut-on imaginer qu'un ministre a fait un poste et alors que ses propres agents n'ont pas rapporté à leur hiérarchie propos qui auraient pu anticiper, effectivement, c'est absurde.
Et on va conclure là-dessus. En fait, il y a eu quand même de sérieuses failles dans les services.
Failles dans les services, donc dans les procédures effectivement d'alerte, d'où l'appel effectivement du ministre et d'autres à ce que ce genre d'événement soit rapporté. Mais surtout, ce que je constate, Jean-Claude, c'est qu'encore une fois, on vit dans une société de l'immédiateté. De sorte que même si le ministre, en fait, avait pris le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, de s'effondrer un peu plus, il aurait été pilonné de la même manière et encore pire, au motif qu'il se serait tué, effectivement, sur le sujet, alors que tout le monde prétendait savoir déjà la nature, la nature islamique, entre guillemets, de cet attentat.
Pour conclure,
Jean-Claude, si je pouvais effectivement passer un message à nos auditeurs, c'est que ne jamais réagir immédiatement et spontanément à une réaction immédiate des médias sociaux sur un événement quel qu'il soit.
Voilà, mais ça, c'est la sagesse populaire qui ne touche pas apparemment les sphères politiciennes. Et on marque une première pause publicitaire.